cette résidence d'artistes. La halle s'est associée avec deux autres structures. Nos publics connaissent déjà parce que ce n'est pas le premier partenariat qu'on mène avec elle. Donc la Vert des Pentes, qui est vraiment une association qui est spécialisée dans l'organisation des résidences d'artistes dans les refuges, dans les parcs des Écrins. Puis la Villa Glovette, qui se trouve à Villard-de-Lans et qui, elle aussi, est un lieu de résidence et d'accueil d'artistes, on va dire, dans les saisons, hors saison, justement, hors saison touristique. Et donc, c'est la première édition de ces dispositifs, et on espère surtout pas la dernière. Et donc, on a accueilli conjointement Corentin Thillois, qui avait un projet d'ailleurs de long cours, hein, parce que justement, il a été invité en raison aussi des travaux précédents, un lien donc avec cet univers pastoral, en relation avec les troupeaux, l'appel notamment des troupeaux. Donc il a eu l'occasion, entre l'été et l'automne 2023, de poursuivre ses projets. C'est la sortie de résidence, donc c'est l'installation, en plus dans ce nouvel espace qui est tout récent, qu'on a inauguré cet été sur la place de la Halle. Ces œuvres seront visibles effectivement, même au-delà des horaires d'ouverture du centre d'art. C'est la première édition de cette résidence à Alpage, et c'est aussi une des premières installations qu'on a dans cet espace.
La source, Corentin, c'est pas forcément les Alpages qui vous occupaient l'esprit, il y avait plus une dimension de création, d'objets, de matière, avant de découvrir les mondes alpins à travers votre résidence un peu expérimentale. Vous n'avez pas spécialement de lien à la montagne dans votre apprentissage de l'art ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas originaire d'un pays montagneux et je ne vis pas dans un pays montagneux, donc c'est une découverte à chaque fois. Mais après, je suis salarié agricole aussi à côté. Donc en fait, après mes études d'art, ma pratique s'est orientée avec un intérêt particulier pour l'élevage, le pastoralisme et les choses qui en découlent. Donc souvent des techniques particulières, soit d'appel ou des objets utilisés dans ces milieux-là. Et du coup, ma pratique s'est déplacée sur ce centre d'intérêt et a supprimé un peu une pratique qui était liée spécifiquement au médium céramique en particulier. Oui. Pour découvrir autre chose.
Ouais. Donc il y avait la céramique au départ, et puis après, tout doucement, ça mûrit avec cette notion de montagne, ou c'est venu conjointement ?
C'est venu conjointement, mais sans que je me rende compte au départ, parce qu'il s'était passé plusieurs choses au même moment. Donc il y avait, par exemple, il y a 2 ans, j'étais parti en montagne travailler, et à côté, je menais un projet sur des objets de musique en céramique, et qui était lié, mais d'une part, enfin c'était assez anecdotique, et lié à l'élevage, mais à l'élevage plutôt en Australie, à une époque où, enfin, il y a peut-être 100 ans de ça, on n'utilise plus ces objets. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la recherche et du travail que les deux milieux se sont rejoints, quoi. Parce que je ne m'en étais pas rendu compte pendant peut-être plus d'un an, et j'ai essayé d'associer les deux pour nourrir mon travail en élevage et le valoriser, et puis aussi pour nourrir mon travail en art et valoriser le milieu de l'élevage.
Vous êtes musicien à la base ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout, que vous vous intéressiez à être un certain luthier, finalement, avec des objets. Alors, parfois, des objets détournés, hein, c'est ça, que vous manipulez, vous donnez un autre sens, vous jouez un petit peu avec les objets.
Oui, en fait, le projet d'instrument de musique en céramique, c'est un instrument de musique qui s'appelle le sistre, qui est un objet à percussion antique et qui n'est pas du tout réalisé en céramique. En tout cas, les sistres sonores ne sont pas réalisés en céramique. Donc moi, je les ai réalisés dans ce matériau-là parce que ce matériau-là a une dimension sonore assez incroyable vis-à-vis des terres employées, de la cuisson, de la forme, plein ou pas plein, des pièces, etc. Donc oui, il y a des tournements là-dedans, quoi. Mais c'est un instrument à percussion, donc je n'ai pas spécifiquement besoin d'être musicien pour en jouer ou essayer d'en jouer, quoi.
Il y a quand même la sonorité qui a donné un fil conducteur, hein, puisque dans votre résidence d'Alpage, le son est omniprésent.
Oui, et c'est une chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et donc ça avait commencé avec ce film où je m'intéressais aux techniques d'appel des troupeaux, où j'avais rencontré plusieurs éleveuses et plusieurs éleveuses pour mener le travail, quoi. Et en gros, après j'étais parti en Alpage. C'était le début un peu de la recherche. J'étais parti en Alpage pour essayer d'observer ça au départ. Après, je suis parti de l'Alpage, c'était en Savoie, pour partir en Grèce, pour travailler sur ces instruments de musique à percussion. Et donc, c'était encore le son. Et là, oui, effectivement, les deux résidences, à chaque fois d'une semaine, que ce soit dans les Écrins ou à Villars, en gros, c'était orienté un peu là-dessus. Donc, toujours la recherche autour du pastoralisme. Mmh. Donc, aller à la rencontre des bergers, des bergères pour parler de ça. Et au-delà du son et des techniques d'appel, aussi parler du métier. Et qu'est-ce que ça change en montagne par rapport à la plaine? Parce que je ne connais pas la montagne. Et oui, les sons sont omniprésents tout le temps, parce qu'il y a le torrent qu'on entend gronder en permanence, il y a les rochers qu'on entend aussi tomber quand il pleut, mais c'est assez invisible, quoi. On peut pas s'en approcher, et puis il ne faut pas qu'on s'en approche. Mais du coup, ça donne une dimension au lieu. La dimension sonore donne un peu... je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que la montagne sans bruit, ça ne serait pas possible du tout, quoi. Je pense que ça fait... Ça fait partie de la montagne, en même temps, ça la magnifie entièrement. Et après, là, pour rendre compte de cette résidence, c'était un projet sur le son aussi, puisque c'est un travail sur des cloches. Mais du coup, non pas en métal, mais une espèce de détournement des cloches, du coup, peut-être employable en plaine et sur des petits troupeaux, réalisés avec de la corne. Donc le bruit n'est pas du tout le même, la résonance non plus, mais je trouve que les matériaux employés ont un intérêt, quoi.
Il y a eu plusieurs secteurs de montagne dans lesquels vous avez évolué.
Oui, il y avait la haute montagne dans les Écrins. J'étais au refuge du Pré de la Chaumette, qu'on accède par Champollion, ouais. Si je ne me trompe pas, et dans mon souvenir. Et donc là, je suis resté vraiment sur ce territoire-là, où en fait, chaque déplacement était à pied. Et donc, il y a eu 7 heures de marche un jour, mais en fait, c'est en haute montagne, assez peu de distance. Et en gros, dans le Vercors, j'étais à Villard-de-Lans, mais j'ai bougé un peu autour pour aller rencontrer du monde et aussi pour pouvoir marcher, voir un peu le paysage, quoi. Mais c'était assez près de Villard quand même, les deux éleveurs que j'ai rencontrés.
C'était aussi des époques différentes dans les calendriers, on va dire, ou en tout cas dans, dans la vie du troupeau. Effectivement, dans les Écrins, c'était l'été, c'était vraiment sur place. Là, plutôt à Villard, évidemment, c'était évidemment pas les mêmes personnes et les mêmes bêtes, mais voilà, c'était une autre temporalité, on allait vers l'hiver, c'était vraiment la redescente, voilà. Donc il y avait, en tout cas, dans l'idée de proposer à Corentin un projet dans ces milieux-là, il y avait aussi cette idée de jouer avec des saisonnalités différentes, oui. Au-delà des paysages et des milieux complètement différents, parce qu'effectivement, Villars et surtout autour de Glovette, où tout était basé, c'est quand même très presque urbain, j'ai envie de dire, ou en tout cas vraiment aux marges d'une station touristique, ouais. Alors que dans les Écrins, c'était en plein nature, en altitude, avec des paysages abrupts, et comme tu disais, pas forcément les conforts du déplacement et la facilité de la mobilité, quoi, pour joindre tes interlocuteurs.
Les entretiens ne sont pas les mêmes, enfin les entretiens... Les conversations que je peux avoir avec les bergers et bergères à ce moment-là, ce n'est pas les mêmes, puisque dans les Écrins, on montait. Donc du coup, il n'y avait pas de... Enfin, c'était le début, tout allait bien, il faisait beau. Ah oui. Et puis en fait, quand j'étais à Villars, les troupeaux redescendaient. Et donc du coup, les discussions étaient plutôt orientées sur des retours d'expérience, eux, vis-à-vis des 3-4 mois qu'ils ont passés en altitude.
Voilà, pas forcément positive, c'est ça? Non, comme vous avez l'air de l'annoncer. D'autres différents échos, que ce soit à la montée, oui, ou au retour. C'est ça.
Et on parle des loups et au retour, il y a eu des attaques. C'est un peu ça, quoi.
Et c'est important aussi de marcher, comme vous me disiez à l'instant, on va marcher parfois 7 heures. Oui. Dans le processus créatif, marcher, c'est ressourçant, enfin, ça apporte quelque chose au projet aussi, d'imaginer, de marcher, de s'imprégner.
Ça permet de réfléchir, donc les choses viennent assez seules, puisqu'en fait, l'esprit n'est pas occupé, c'est-à-dire que juste les jambes avancent, quoi. Et donc on a l'esprit libre de toute réflexion. Et donc oui, c'est pas quelque chose que moi j'ai dans mon processus créatif, pas du tout. Mais
il s'est imposé de lui-même.
Il s'est imposé de lui-même et m'a fait beaucoup de bien. Je trouvais ça, ouais, super de marcher autant de temps et dans un paysage aussi grandiose. Quoi.
Et c'était effectivement difficile à anticiper cette notion de créer en marchant, en réfléchissant et en empruntant le paysage. Alors qu'est-ce que l'on peut découvrir donc, dans le lieu d'art et sa partie haute du lieu d'art, hein, des objets, c'est ça? Alors, on commençait à parler de céramique, des éléments, hein, de vos différentes résidences sur ce secteur.
Oui. Donc en gros, au centre d'art, au sein de l'auditorium, il y aura le film que j'ai réalisé, qui est un retour d'expérience de ce qui se passait spécifiquement dans les écrins. Et au showcase de la halle, au-dessus du centre d'art, il y aura plutôt un compte-rendu d'expérience de ce qui s'est passé en Vercors. Donc les deux sont liés vis-à-vis de la thématique de travail générale, quoi. Il y a une chose qui les lie, c'est que contrairement à ce que j'ai pu faire autrefois il y a 2 ans sur le pastoralisme, en essayant de donner à voir ce qui m'avait été dit, clairement et simplement, là j'ai, comment dire, c'est des retours d'expérience assez personnels finalement, donc j'y mets un peu du mien dans le sens où voilà, il y a au sein du film en fait en gros des chapitres où en gros c'est une espèce d'avancée comme ça, dans le paysage, jour par jour, jusqu'à arriver au bout d'une semaine à la rencontre d'une bergère et son aide-bergère, dont je retranscris les propos qui m'ont été dits, quoi.
Des instruments de musique aussi ?
Oui. Et effectivement, dans le showcase, voilà. Donc en gros, il y a un texte qui est une histoire un peu fantasmée de ce que moi j'aurais aimé avoir, par exemple, un peu dans la vie, et ce que je compte essayer de mettre en place. Et c'est des choses dont je discute avec les gens que je rencontre souvent, ou avec les patrons que j'ai pu avoir dans ma vie en travaillant en tant que salarié agricole. Et il y a une partie voilà, musicale qui concerne des cloches. Moi, j'ai réinterprété des cloches, des sonailles, pas en métal, mais du coup en corne de vache, avec ce que moi j'aurais pu trouver sur place et des éléments que j'ai pu trouver sur place, puisqu'en gros, le but, il y avait une des choses, il y avait, c'est-à-dire, en gros, deux parties de travail sur les 2 semaines de résidence, c'est qu'il y avait poursuivre la recherche sur le pastoralisme et aller à la rencontre des acteurs, quoi, du pastoralisme, et ensuite essayer de voir ce que je pouvais trouver sur place comme élément qui puisse me permettre de fabriquer un instrument musical. Et donc après, tout ça a été réfléchi au fur et à mesure, et le choix s'est porté sur des cloches en tant qu'instrument. Mais dans les écrins, il y avait un atelier le premier jour qu'on a fait avec des élèves de primaire, où du coup on avait fabriqué des sistres à percussion avec ce qu'on a pu trouver le long de la rivière,
d'accord,
le long du Drac.
Donc il y a une interaction aussi avec le public environnant quand vous êtes en période de résidence, de création?
Pas toujours, mais là ça s'est proposé, quoi, ouais. Et c'était super, ouais, bien de faire ça.
Merci beaucoup, Corentin Tillois. La résidence est complètement terminée ou il y a d'autres actions encore à venir?
Voilà, cette proposition dans l'auditorium, dans le showcase, ça termine cette période effectivement d'expérience des terrains, de recherche. Puis j'en suis sûre que Corentin poursuivra un autre travail, peut-être fort, enrichi de ses expériences. Après, pour ce qui concerne les projets en soi, c'est-à-dire le dispositif Alpage, nous souhaitons effectivement, moi et mes collègues de la Villa Clovette et l'Invers des Pentes, souhaitons le proposer pour une deuxième édition. Et sûrement, on invitera aussi Corentin, fort de cette première expérience, à participer au comité des sélections. Donc, on ne s'est dit pas au revoir complètement à la fin de l'exposition.
En tout cas, le programme continue, hein, dans les différents secteurs, hein, les autres massifs.
Oui. Avec la même formule, effectivement, oui, d'une période plutôt l'été dans les écrins, à l'automne ici dans le Vercors, et puis pendant l'hiver, la restitution qui aura lieu à la halle.
Merci beaucoup, Corentin Tillois, et merci beaucoup, Giulia Turati.